puis on va débuter avec le journal de Catherine Dutoux. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En faisant entrer le mémorialiste Maurice Genevoix au Panthéon en ce 11 novembre, Emmanuel Macron honore tous les combattants de la Première Guerre mondiale, 100 ans après l'inhumation du soldat inconnu. Maurice Genevoix avait été grièvement blessé au front en 1915, perdant l'usage d'une main. De l'autre, il passera sa vie à écrire l'enfer des combats, portrait d'un écrivain et d'un académicien méconnu dans un instant.
Alors c'est une cérémonie du 11 novembre en comité restreint à cause de la crise sanitaire. Avant la prise de parole du Premier ministre demain, le MEDEF fait pression pour ouvrir les petits commerces au plus vite.
À la une encore, la victoire de Joe Biden à la présidentielle aux États-Unis a décidément du mal à passer. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, évoque une transition en douceur et un second mandat de Donald Trump. Au Brésil, Jair Bolsonaro en vient même à menacer le président élu.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, automobile, quel malus contre la pollution? Je poserai cette question au journaliste Benjamin Cuc.
Celui qui entre au Panthéon aujourd'hui avait 24 ans quand il a été envoyé au front. Jeune normalien, Maurice Genevoix se retrouve pendant 8 mois dans l'abomination de la guerre et des tranchées. Il la consigne dans des carnets, dans des récits où les hommes côtoient la mort et la nature. Ce qui fut le plus dur de l'épreuve, ce qui a fait nos soldats vraiment héroïques, c'est la boue, écrit Maurice Genevoix dans cet extrait de Ceux de 14, lu par Philippe de Rèze.
La boue, dans quoi nous avions vécu tout l'hiver, la boue que les premiers soleils avait commencé à sécher, mais qui avait réapparu à la veille de notre attaque plus épaisse et gluante que jamais. On eût dit pour que nous nous retrouvions nous-mêmes, fangeux des pieds à la tête, à l'heure où nous pouvions mourir. Des cartouches terreuses, des fusils dont le mécanisme englué ne fonctionnait plus. Les hommes pissaient dedans pour les rendre utilisables.
Extrait de Ceux de 14 qui regroupe la plupart des récits de guerre de Maurice Genevoix. Extrait au cœur de la compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange à retrouver sur franceculture.fr. En ce jour donc de panthéonisation de Maurice Genevoix, écrivain et académicien mort à 89 ans en 1980. La cérémonie présidée par Emmanuel Macron ce soir se tient en petit comité. Crise sanitaire oblige. Et à travers Maurice Genevoix, c'est un hommage qui est rendu à tous les poilus selon Benjamin Gilles, membre du conseil scientifique de la mission du centenaire, directeur adjoint du réseau des bibliothèques de l'université de Cergy-Pontoise.
C'est à la fois le dernier acte, probablement, de la commémoration du centenaire. C'est aussi un attachement du président de la République au témoin Maurice Genevoix et à sa plume. Et comme on a un président de la République qui est très attaché aux questions mémorielles, c'est aussi dans la personne de Maurice Genevoix la faculté de porter le témoignage d'une expérience collective de la Grande Guerre et de la sublimer par la panthéonisation. Maurice Genevoix est l'auteur de 5 récits de son expérience combattante sur le début de la guerre entre 1914 et 1915. Un témoignage qu'il va retravailler suite à son élection à l'Académie française en 1946, né aux alentours de 20 000 aujourd'hui exemplaires de l'ouvrage qui ont été achetés durant le centenaire. C'est un succès de librairie conséquent, Maurice Genevoix, ce qui est extrêmement rare parmi toutes les figures du témoignage combattant de la Grande Guerre. C'est un auteur qui, en plus, est énormément cité dans les ouvrages scolaires du secondaire. Donc, il est connu. C'est une figure tutélaire du témoignage qui a l'avantage de ne pas être une figure idéologique des anciens combattants, à la différence de quelqu'un comme Barbus ou d'Orgelès qui ont eu des engagements politiques plus forts que ceux de Maurice Genevoix.
Benjamin Gilles, membre du conseil scientifique de la mission du centenaire. Pour en savoir plus encore sur Maurice Genevoix, témoin rare de la Grande Guerre, mais aussi nostalgique de l'enfance et un aide de la nature, c'est un article à retrouver sur franceculture.fr. Avant de présider ce soir donc la cérémonie d'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, Emmanuel Macron se rendra d'abord ce matin au pied de l'Arc de Triomphe pour rendre un hommage aux soldats inconnus inhumés il y a un siècle tout juste. Une séquence hautement politique, Stéphane Robert.
Les cérémonies qu'Emmanuel Macron s'apprête à présider aujourd'hui sont pour lui importantes à plus d'un titre. D'abord, elles vont clôturer les commémorations du centenaire de la Grande Guerre lancées par François Hollande en novembre 2013. Elles s'achèvent naturellement par un hommage aux soldats inconnus dont la sépulture avait été installée sous l'Arc de Triomphe il y a un siècle précisément, le 11 novembre 1920. Puis en fin de journée, le chef de l'État célébrera l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, l'écrivain qui a raconté le quotidien des tranchées. Avec lui, c'est un hommage à tous les soldats, à tous les poilus de la Grande Guerre qui sera rendu à cette occasion. Mais Emmanuel Macron veut y voir plus que cela encore. Il considère ces célébrations comme un hommage aux Français d'hier, mais aussi à ceux d'aujourd'hui, et plus globalement comme un hommage au tempérament français, à un état d'esprit singulier, expliquent ses conseillers à l'Élysée, qui permettent au peuple français d'affronter et de surmonter les soubresauts de l'histoire. Autrement dit, il veut rendre hommage à la volonté et à la résilience des Français et célébrer une sorte de France éternelle, car il veut voir dans la manière dont les Français ont surmonté les périls d'hier, le présage de la façon dont ils surmonteront les crises d'aujourd'hui.
Et dans cette crise sanitaire, alors que la deuxième vague de Covid progresse encore, 472 personnes sont mortes en 24 heures à l'hôpital, 4736 patients au total en service de réanimation ce matin. Jean Castex doit s'exprimer demain soir pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, trop tôt a priori, pour proposer un assouplissement du confinement. C'est pourtant ce que demandent certains élus de l'opposition et même des proches d'Édouard Philippe au sein du groupe Agir, qui siège dans la majorité à l'Assemblée et qui réclame la réouverture des petits commerces au plus vite. Le gouvernement ne devrait pas céder tout de suite à leur pression et à celle du MEDEF, Thomas Giraudeau.
Au sein du gouvernement, la position en coulisses est claire. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. Ça n'aurait pas de sens de déconfiner le commerce maintenant. Les professionnels d'ailleurs ne se font pas d'illusions. Ils tablent plutôt sur une réouverture le 1er décembre, à l'image du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
En termes de mesures sanitaires, il faut prendre un cocktail. Nous, on a proposé de revoir les jauges, en français dans le texte, le nombre de gens par mètre carré. Et puis, il y a peut-être la notion de prise de rendez-vous qui convient pas à tous les commerces et qui pourrait être mis en place.
Bercy planche en ce moment sur ses options. À la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi se dit prêt à les appliquer. Il n'a pas vraiment le choix.
Entre rester fermé et avoir des clients filtrés, ben moi, je prends la solution de filtrer les clients. Si en plus on se soumet à des mesures sanitaires encore plus fortes de distanciation, de jauge, eh bien en respectant bien sûr le masque, les vêtements après essayage qui sont passés à la vapeur, et des mesures qu'on avait déjà mis en place et qu'on a toujours respectées.
Et pas de risque de voir les consommateurs se presser dans les magasins au moment de la réouverture, selon Emmanuel Leroc du Procos, la Fédération du commerce spécialisé.
On ne croit pas de toute manière à la logique d'un énorme flux. On est quand même dans une période où il y a des contraintes de déplacement qui restent fortes. En ce moment, par exemple, le niveau de fréquentation des magasins ouverts est très faible.
Ce que les commerçants veulent, c'est surtout de la visibilité, savoir plusieurs jours à l'avance quand et comment ils pourront rouvrir leurs boutiques.
Et dans ce contexte, le printemps a annoncé hier soir la fermeture de 7 magasins en France et la suppression de 450 emplois d'ici juillet prochain dans le groupe qui compte 3000 personnes. Les précisions de Margot Delpierre.
L'annonce est tombée en plein confinement alors que des salariés sont en télétravail ou au chômage partiel. Le groupe ferme 4 magasins printemps sur 19 situés au Havre, à Strasbourg, Metz et Place d'Italie à Paris. Puis il faut ajouter la fermeture de 3 Citadiums sur 8, ceux des Champs-Élysées et de Nation, toujours dans la capitale, ainsi que celui de Toulon. Le célèbre grand magasin du boulevard Haussmann qui accueille chaque année des millions de visiteurs lui continuera d'exister, mais selon la CGT, 44 postes ils seront tout de même supprimés. Suppression également au siège et chez Printemps Voyage, affirme le syndicat. Au total, 450 emplois seront supprimés, d'après la CFDT et la CGT. 428 estime le groupe. La CGT qui regrette la stratégie de la direction ces dernières années, celle de l'international et du luxe. Elle a peut-être fait ses preuves dans les quartiers touristiques de Paris, notamment avec la clientèle chinoise, mais pas dans les autres villes, déplore le syndicat. Dans un communiqué, le groupe rappelle la difficultés du marché, les crises, les attentats, les manifestations de gilets jaunes, les grèves, et précise que la pandémie n'a rien arrangé. La direction affirme être dans l'obligation de transformer son modèle pour arrêter les pertes et prévoit d'investir 40 millions d'euros par an dans les 2 à 3 prochaines années.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Ses avocats disaient de lui qu'il avait hâte de venir s'expliquer. L'ancien ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, 75 ans, ne s'est pourtant pas déplacé pour son procès hier à Paris.
Il devait répondre d'agressions sexuelles sur 5 hommes. Un médecin de Rome, où vit désormais l'ex-nonce, lui a déconseillé finalement de venir en France, zone rouge en termes de Covid. Le procès s'est donc tenu sans Luigi Ventura et les réquisitions sont sévères. Le procureur demande une peine de 10 mois de prison avec sursis. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
Je ne sais pas si ce procès est historique, commence le procureur, mais il y a dans ce dossier des faits évidents, d'une simplicité affligeante, rendue complexe par les circonstances qui l'entourent, la qualité de diplomate et d'homme d'église du prévenu, mais aussi l'hétérogénéité du préjudice, ses deux victimes, beaucoup plus traumatisées que les autres. Devant lui, Mahé, 21 ans, évincé du séminaire après avoir dénoncé les faits, cinq mains aux fesses, appuyées durant l'office religieux où il assistait l'ancien nonce apostolique. Il a renoncé à devenir prêtre. Mais comment cet homme a-t-il pu avoir un comportement aussi débridé, interroge encore le magistrat, et surtout pourquoi nie-t-il les faits? La question demeure sans réponse, le prévenu n'est pas venu et le président ne lui posera pas la question que Luigi Ventura a lui-même posée aux jeunes séminaristes lors de leur confrontation. Je voudrais qu'il fasse un effort de mémoire doublé d'un effort de vérité. Monsieur Ventura doit être relaxé, plaide son avocate, quels que soient les icebergs, l'histoire et l'église que l'on a tenté de faire entrer dans cette affaire, elle ne contient que quelques gestes et un pauvre homme. Le parquet vient de requérir 10 mois avec sursis et on l'a appris hier au cours de l'audience, l'immunité diplomatique n'a été levée qu'en partie pour Luigi Ventura, elle ne concerne pas la peine qui pourrait lui être infligée.
Le jugement est mis en délibéré au 16 décembre. Par ailleurs, le Vatican a démenti hier avoir passé sous silence les agissements sexuels de l'ex-cardinal américain Théodore McCarrick, défroqué tardivement pour des abus sur mineurs. Le Vatican qui admet toutefois dans un rapport de 450 pages des erreurs commises sur la foi d'informations inexactes et incomplètes sur, je cite, l'inconduite sexuelle de McCarrick avec de jeunes adultes aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, alors que l'équipe de campagne de Donald Trump va déposer un recours devant la justice dans le Michigan sur les résultats de la présidentielle du 3 novembre, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo refuse de reconnaître la victoire du démocrate Joe Biden et il promet une transition en douceur vers un second mandat de Donald Trump. Fidèle, lui aussi, au président sortant, Jair Bolsonaro au Brésil, allié de Trump, Joe Biden a aujourd'hui un discours bien différent de son prédécesseur sur l'environnement et cela ne plaît pas du tout au président brésilien Vinícius.
Jair Bolsonaro a évoqué pour la première fois Joe Biden hier soir. Pas pour le féliciter de sa victoire, mais pour le menacer.
Nous venons de voir un grand candidat à la présidence dire que si je n'éteins pas les feux en Amazonie, il va mettre en place des barrières commerciales contre le Brésil. Et comment on va faire face à cela? Car la diplomatie seule ne marche pas. Quand on n'aura plus de salive, il faut qu'on ait de la poudre, sinon ça ne marche pas.
L'Amazonie est désormais le point chaud de la relation entre les deux pays. Biden a proposé d'abord un fonds d'aide de 20 milliards de dollars pour l'Amazonie avant de parler de sanctions économiques. Selon le politologue brésilien Carlos Milani, les deux leaders ne peuvent pas s'entendre tant leurs visions sur l'environnement sont différentes.
La question amazonienne renvoie au rôle que peuvent avoir les scientifiques. Les scientifiques vont être appelés par Joe Biden pour débattre des enjeux climatiques. Donc ça peut produire des courts-circuits dans l'engrenage politicien qui marchait parfaitement bien dans le déni de la science, dans l'obscurantisme de Trump et de Bolsonaro.
Avec la défaite de Trump, Bolsonaro a perdu son meilleur allié, climato-sceptique comme lui. Mais l'Amazonie, dont la déforestation ne cesse d'augmenter, a peut-être gagné un allié à la Maison-Blanche si Biden tient vraiment ses promesses et Bolsonaro n'engage pas les canons.
Anne Vigna au Brésil pour France Culture. Le temps de ce mercredi 11 novembre, gris de la Bretagne jusqu'au Grand Est, plus ensoleillé au Sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 15 degrés sur la moitié nord du pays, comptez de 16 à 21 au Sud, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants automobile, quel malus contre la pollution? Je poserai la question au journaliste Benjamin Cuc.